Tout de suite, les titres de Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Olivier Véran sera le nouveau ministre de la Santé. La passation entre le neurologue député de l'Isère et Agnès Buzyn aura lieu dans la matinée. Cette dernière a annoncé hier sa candidature à la mairie de Paris. Elle remplace le marcheur Benjamin Griveaux qui s'est retiré de la course vendredi après la diffusion de vidéos intimes sur Internet. Le choix d'Agnès Buzyn est critiqué par l'équipe d'Anne Hidalgo, actuelle maire de la capitale, qui déplore une absence d'ancrage politique local. Quelques jours auparavant, avant, la future ex-ministre avait déclaré ne pas vouloir se présenter à cause de son agenda trop chargé. Parmi les dossiers dont elle s'occupait, on peut citer la réforme des retraites. Elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée dans l'hémicycle. Un projet qui a provoqué des semaines de grève et de nombreuses manifestations. Un projet que l'opposition trouve injuste et compte bien torpiller avec de nombreux amendements. 41 000 ont été déposés, soit encore davantage que les 22 000 pendant son examen en commission. Agnès Buzyn s'en va aussi en pleine crise du coronavirus ou Covid-19. La Chine compte plus de 1700 morts. Au Japon, les Américains ont commencé à évacuer leurs ressortissants. Cette nuit, ils étaient en quarantaine sur le bateau de croisière, le Diamond Princess, où 355 cas de contamination ont été confirmés. Le coronavirus pourrait avoir de lourdes répercussions économiques au Japon. Déjà au quatrième trimestre 2019, le pays a connu la pire chute de son produit intérieur brut en 5 ans à cause d'une augmentation de la taxe sur la consommation. Une récession est possible. La tempête Dennis a balayé hier le Royaume-Uni. Un homme est mort dans le sud du Pays de Galles, placé en alerte rouge. Des centaines d'avions sont cloués au sol. En France, près de 45 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir dans le nord-ouest du pays. La tempête a aussi fortement perturbé le trafic ferroviaire. Les 700 passagers d'un TGV Nantes-Paris bloqués par un arbre tombé sur les voies devaient être transbordés cette nuit.
Sur France Culture, prenons la vie avec philosophie, Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous?
Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson!
Non, non, je suis bien là.
West Side Story, Chantant sous la pluie, Mary Poppins, Peau d'âne, la comédie musicale nous permet-elle de retrouver la joie de vivre?
C'est un film parlant.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herner.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail, c'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herner, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
6h03, tout de suite sur France Culture, Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Notre invité ce matin est l'écrivain Sabri Loita. Après le succès de sa saga en 4 tomes, Les Sauvages, récemment adapté en série télé pour Canal+, il revient avec un nouveau roman tout aussi audacieux sur la panique identitaire qui secoue la France de plus en plus violemment ces dernières années. Roman d'anticipation, thriller très politique, mais surtout malin et grinçant et redoutablement bien écrit. 404, c'est le titre donc du nouveau roman de Sabri Loita, édité par Flammarion. Sabri Loita qui, avec ce roman, prouve qu'il rejoint ce cercle très restreint des écrivains qui dépeignent le mieux notre époque, c'est-à-dire le cercle des Virginie Despentes et Michel Houellebecq.
Le réveil culturel. Lundi. Livre.
Même si votre écriture n'a absolument rien à voir avec Michel Houellebecq et Virginie Despentes. Bonjour Sabri Loita.
Bonjour, merci pour tous ces compliments.
C'est un roman d'anticipation, je disais, mais enfin, si peu, hein, puisque nous sommes là en 2022. Après nous avoir parlé d'un président de la République française d'origine algérienne, cette fois-ci, enfin, c'est une femme qui va être présidente de la République française. Mais plus que jamais, les réseaux sociaux ont été déterminants dans cette drôle d'élection. Rien n'arrête le progrès, encore moins les usages malveillants de l'intelligence artificielle qui progresse plus vite que les moyens de son garde. garantir. Les deepfakes font fureur. Désormais, on peut faire croire n'importe quoi avec des vidéos où il est impossible de distinguer le vrai du faux. Les effets spéciaux, on peut plus les voir. Impossible donc d'authentifier une vidéo. La preuve par l'image cesse d'être une preuve. Donc, il va falloir faire avec les mirages. C'est le grand sujet de votre roman Sabri Ouattara.
Oui, ça commence sur une atmosphère de calamité technologique, avec ces mirages, comme je les appelle, qui sont des vidéos truquées parfaites, impossibles à distinguer du vrai. Si je veux vous prendre, vous, Toufik Hakem, et que je veux vous mettre dans une situation embarrassante, j'ai qu'à passer une dizaine de minutes sur mon ordinateur. Donc on est dans ce futur proche où on est capable de faire, l'intelligence artificielle est capable de fabriquer des vidéos absolument parfaites avec des êtres de pure synthèse. Ce qui pose dans une société qui est déjà minée par la défiance comme la nôtre, des problèmes presque de santé publique, c'est-à-dire que la santé psychique du pays se dégrade à vitesse grand V à cause de ces fausses vidéos qui pullulent de partout. Plein de gens doivent donner des alibis. C'est-à-dire que c'est le cauchemar démocratique absolu. C'est à celui qui est accusé de faire la preuve de son innocence. Donc c'est le cauchemar du renversement de la charge de la preuve. Là, en l'occurrence, c'est à celui qui est un fantôme. Donc il doit faire la preuve de son irréalité. C'est le monde complètement dingue que j'imagine dans un futur très très proche.
Très proche. C'est ce qui rend d'ailleurs passionnant votre roman parce que on y est déjà. Hein. On n'est pas arrivé à ce stade de technologie, mais les fake news ont déjà fait et défait des régimes démocratiques.
Bien sûr, et on se souvient de ces trucs horribles en Inde, avec des fausses rumeurs qui ont provoqué de vrais lynchages, lancés à échelle industrielle grâce à WhatsApp. Donc des groupes WhatsApp géants qui étaient créés, et des personnes qu'on croyait reconnaître et qu'on lynchait et qui n'étaient pas celles-ci. Donc évidemment, les réseaux sociaux donnent juste une sorte de force décuplée au phénomène immémorial de la rumeur qui se propage et qui provoque des victimes innocentes.
Et comme vous êtes depuis quelques années installé aux États-Unis, c'est-à-dire dans le pays de Donald Trump, on se dit que vous avez été vraiment nourri par tout ce qui se passe aujourd'hui.
Le vrai déclic du livre, ça a vraiment été pas tellement l'élection de Trump, qui m'a surpris comme absolument tout le monde, mais plutôt une conférence de presse de son attaché de presse, ou plutôt d'une de ses communicantes qui s'appelle Kellyanne Conway, et qui avait fait une conférence de presse où devant des faits qui lui déplaisaient, avait parlé des faits alternatifs. Et là, je me suis dit, bon, alors ça y est, on est dedans, en fait. C'est-à-dire que la première puissance mondiale au sein de laquelle je vis, comme un parasite sur le dos du dragon, et là, en l'occurrence, c'était, je me suis dit, on est rentré dans la post-vérité, comme tout le monde, hein, on a utilisé ce terme, post-vérité, et je me suis dit que c'était du pain béni pour le romancier pervers que je suis.
404, alors c'est le titre de votre film, ça n'a rien à voir bien sûr avec la voiture, même s'il y a une 404 à un certain moment, à un moment clé d'ailleurs de votre roman, ça n'a rien à voir aussi avec le 404 de Page Introuvable. 404, c'est un logiciel que l'héroïne de votre roman tente d'imposer pour contrer justement les mirages.
Donc ce personnage qui s'appelle Alia, qui est une polytechnicienne, qui vit en Californie depuis une dizaine d'années, où elle a travaillé dans des laboratoires d'intelligence artificielle, donc c'est vraiment une très grosse tête, rentre en France avec ce qu'elle pense être l'antidote au mirage, c'est-à-dire à ces vidéos truquées. Et son antidote consiste en une application de live streaming, donc du direct pur, qui est impossible à falsifier.
Donc impossible aussi à conserver.
C'est la contrepartie négative de cette garantie d'authenticité qu'elle propose. C'est malheureusement qu'on ne peut pas enregistrer les vidéos. Et quand on ne peut pas enregistrer les vidéos, ça a l'air de rien comme ça, mais ça va avoir des conséquences terribles. C'est-à-dire le remède va s'avérer peut-être pire que le mal qui prétendait guérir.
Alors c'est un roman sombre alors qu'il se présentait comme une farce. Bien sûr, on ne va pas spoiler votre roman Sabri Ouattara et encore moins sa fin tragique sur fond d'un désordre national, une tragédie française de la partition et de la séparation ethnique, pour reprendre vos mots. On va parler plutôt du cadre de cette histoire, l'Allier, pile au centre de la France profonde et profondément divisée, et surtout des personnages. Commençons par les personnages, par les protagonistes de 404. Vous commenciez à parler d'Alia.
Ouais.
Elle est comment, Alia? C'est elle l'héroïne?
Ouais, Alia, c'est vraiment à un moment. Donc Alia, c'est un de ces personnages surdoués. Moi, j'adore les personnages qui sont un peu héroïques, qui sont, comme on dit chez moi, bigger than life. Et là, Alia, c'est vraiment un personnage qui est bigger than life, même physiquement. Elle mesure 1m79. Elle est très athlétique et elle a ce côté américain comme on dit là-bas, valédictorien, c'est-à-dire qui est fort dans toutes les matières. Quelqu'un vraiment qui est un surgissement comme ça. Je pensais beaucoup paradoxalement à un personnage de Philip Roth dans Pastorale américaine. Swede, le personnage héroïque, le juif blond qui est la fierté de tout le quartier des héros. Je pensais à ça, à ce personnage qui est vraiment fort partout et qui arrive avec une grosse intelligence et qui arrive et qui va se heurter à la réalité qui est toujours beaucoup. Enfin, souvent les gens très intelligents ont du mal avec la réalité la plus basique et elle va se prendre la réalité la plus basique en plein dans la tête, quoi. Enfin,
on parlera de son histoire et de ses origines un peu plus tard. Continuons notre revue des personnages de votre roman Ali.
Ali, c'est l'homme du sous-sol Dostoïevskien. C'est celui qui, il est plein de mauvaises pensées, c'est un loser, je pense, c'est un loser, en fait.
Surtout un amoureux solitaire.
Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un rapport, c'est pas exactement de l'érotomanie, c'est plutôt une obsession, voire une idolâtrie vis-à-vis de Alia. C'est-à-dire que c'est son camarade de classe, ils se sont pas vus depuis 20 ans, Alia a dû penser à lui 3 ou 4 fois, Ali tous les jours. Pas une seconde ne passe sans qu'il pense à Alia, donc c'est un amoureux transi. C'est une plus jolie façon de le dire que loser.
Et pourquoi cet ancien camarade d'université d'Alia qui a fait une prépa littéraire se retrouve cuisinier?
Parce que, pour une raison un peu gênante, qui est que Alia lui a dit un jour, comme ça, innocemment en passant, qu'elle pourrait avoir un orgasme si jamais un homme lui faisait bien la cuisine. Et Ali a gardé ça en tête, et quand il a eu des petits problèmes d'orientation, il s'est dit, et si je me mettais à la cuisine? Oui, c'est ce genre de psychopathe un peu, mais voilà, de psychopathe, de sociopathe plutôt.
Ali, on passe à Rachid.
Rachid, c'est le père de Alia. Mmh. Donc c'est un peu un militant berbériste, c'est un peu un de ces Kabyles qui vit dans le centre de la France et qui en fait est complètement français, voire franchouillard, et qui a un
drapeau. Il s'applique à être plus français que les Français, hein.
Ouais, c'est vrai, il fait preuve de beaucoup de zèle.
Tout en étant sincère, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Le zèle, ça donne l'impression qu'il est hypocrite. Pas du tout, il est sincère, il aime vraiment le terroir, il aime le pays au sens pas de la nation, mais de la réalité concrète, matérielle, charnelle du terroir dans lequel il vit. Et donc, c'est le père d'Alia, c'est surtout un homme qui a grandi à l'ombre d'un père héroïque qu'il a jamais connu, puisque c'est un père qui était un moudjahid du FLN de la 7e Wilaya, c'est-à-dire en France, ceux qui combattaient pour l'indépendance, mais depuis la France, et donc qui est mort jeté avec d'autres Algériens dans la Seine le 17 octobre 61.
Mehdi,
c'est le personnage qui me ressemble le moins, c'est le personnage complètement positif.
Vous voulez dire que vous ressemblez à Ali et Rachid réunis samedi matin?
Ouais. Enfin, celui à qui je ressemble le plus, il n'est pas encore arrivé dans la liste. Mais je pense que le personnage de Mehdi, c'est un personnage vertueux, c'est un personnage... Il y a cette anecdote que j'adore sur les âmes mortes de Gogol. Il avait écrit Les âmes mortes où il prend un peu le point de vue du diable. Et le diable étant inventif, créatif, plein d'intelligence et de ruse, son roman est passionnant. Les âmes mortes, tout le monde adore. C'est à la fois hilarant et tragique. C'est un sommet de tragique comédie. Et ensuite, il s'est dit, il a eu une crise mystique, il était tourmenté par des idées religieuses, et il s'est dit, je peux pas faire ça, je peux pas... En fait, je me suis mis au service du malin. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est raconter une histoire positive. Et il a écrit Le Pèlerin, qui est un roman nullissime, donc il ne reste pratiquement rien. Tout ça parce qu'en fait, on fait pas de bonnes histoires avec l'édification morale.
Voilà, pour mieux dit, Kader. Ah, Kader.
Kader, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment un personnage à ce niveau maintenant. C'est plutôt quelqu'un qui a piraté mon roman. C'est-à-dire qui arrive au milieu du roman et qui a choisi la direction dans laquelle le roman irait. Donc c'est un personnage, d'une certaine façon, dont le projet, qui est un projet, je sais pas si je peux le dire, mais qui est un projet proche, à mon avis, de la vengeance. Quelque chose de, au fond, c'est quelqu'un qui est animé par, il déteste la haine, par exemple. La haine, ça fait faire des choses idiotes aux gens, ça leur enflamme la tête et ça les jette les uns contre les autres.
Mais c'est le plus américain des personnages de 404, moi, je trouve.
Je pense qu'il est aussi américain que Alia, en fait. Ouais. Mais oui, c'est vrai que déjà il y est depuis beaucoup plus longtemps. C'est quelqu'un qui est un génie, c'est sûr, un génie des maths, un génie au sens intellectuel, qui est devenu milliardaire. Ça à cause grâce aux bitcoins. Il y a des fortunes comme ça qui se font dans la tech. Donc c'est quelqu'un qui a investi très très tôt massivement dans les bitcoins. Et il a eu cette bonne intuition. Donc il faisait avant des algorithmes de trading. C'était un trader. Et c'est quelqu'un qui évidemment, comme tous les gens qui adorent le pouvoir, ne pense qu'au pouvoir tout le temps, ne pense qu'à l'argent tout le temps. Si argent et pouvoir sont synonymes, ce qui en l'occurrence est souvent le cas pour lui.
Et c'est pour se venger aussi de ce système universitaire qu'il avait exclu.
Qu'il n'avait plus exclu. Il a été accusé quand il était en prépa d'avoir violé une fille. Mmh. Il a dit que ce n'était pas le cas. Il a été défendu par la grand-mère d'Alia d'ailleurs, qui était une avocate. Et finalement, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas souhaitable qu'il reste dans l'établissement.
Tout aussi emblématique de l'époque, les jeunes protagonistes de 404, on arrive à Nesrine et le Fennec.
Nesrine, la première fois qu'on la voit, elle a un téléphone portable coincé dans le bandeau de son voile. Et c'est un personnage...
Le voile, hijab, on peut le dire.
Le hijab, oui, ouais. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi on dit toujours voile, d'ailleurs. C'est, ouais. Un hijab, c'est vrai. Et bon, moi, c'est un des personnages préférés. Elle est vraiment... Elle est très grande gueule. Elle fait preuve de beaucoup de mauvaise foi, mais elle argumente très, très bien. Ce qui, à mon avis, est souvent le cas des gens qui argumentent très bien. Et elle est... donc oui, c'est une jeune tête brûlée qui fait partie un peu de la famille et qui va se retrouver dans... Parce qu'on n'a pas dit où tous ces personnages se retrouvent.
Oh, on parlera bien, le lieu d'abord. Les personnages.
Donc voilà, donc Nesrin, elle incarne un peu aussi une forme de jeunesse qui existe beaucoup sur Twitter. Notamment, je suis beaucoup, moi j'ai pas de vrai compte à mon nom sur Twitter, c'est beaucoup trop dangereux.
Donc
j'espionne avec des faux comptes. Et un de mes faux comptes, c'est un peu tout le Twitter rebeu que je suis, tout le Twitter qui se scandalise et qui a. J'adore vraiment Twitter. C'est vraiment parce que beaucoup de gens n'avaient pas du tout la parole avant Twitter, mais pas du tout. Et encore aujourd'hui, il y a une parole qu'on entend que sur Twitter. Ben moi, ça m'intéresse de regarder ce que c'est, quoi.
Et le Fennec, enfin, pour terminer.
Et le Fennec, dont on ne saura jamais le vrai prénom, c'est son surnom parce qu'il porte toujours un maillot de l'Algérie.
Tout à fait français. Tout en complètement étant, voilà, français.
C'est le cas typique des comme il dit Kamel Daoud, les hyper algériens.
Ouais.
Donc ils sont plus algériens que les Algériens, alors qu'ils sont allés à l'Algérie deux fois et qu'ils connaissent surtout la France.
Voilà. Et les auditeurs auront compris depuis le début que tous les personnages de votre roman très français sont arabes. Sabri Bata.
Ils sont ethniquement arabes, si vous voulez, mais ils sont français. Ouais. Enfin, c'est pas. Je veux dire, oui, j'ai fait. Il y a beaucoup de romans français où il y a pas du tout d'arabes. Je fais pas le compte. Vous voyez, donc tous les personnages sont. Ils appartiennent tous à peu près à la même famille ou à peu près approchant. Donc, et c'est vrai que j'ai tendance dans ce bouquin à vouloir faire le portrait d'une communauté. Oui.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Je suis fier comme l'Algérien, comme dit Mustapha Piaché. Je suis fou comme un Pélestinien, trop vert dans la vallée. J'ai ma bande, et ma bande c'est mon sang OP pour te la mettre. Et si je bande, c'est pas ma faute, tous les arabes bougent la tête. Et puis, joyeux quand on tisse, carré dans nos bises. Que des 10, je suis ni le joint et le gis. À la chouche, je lisse comme ma gang. Le mental gainé, ouais, le cœur gainé. Et attends, je suis ni entêté, parce qu'elle veut t'écouter maintenant. Monte le son et stream, et même si t'es chim, t'es maton. Mon n'est pas un dream, ouais, le son est green et le maton. Je suis mis devant son zen, je crie. Et liberta, matata, Akunya Mamao, à toutes les chmetas, à la lao. Fini de jouer les cons, genre mets tes petits ponts. C'est tes aides, tartes ou des aides, ego tous des aimes. Dans l'action, genre déploie mes ailes. J'prie et j'finis seul dans ma ponce. Nique tout sur la scène et j'fais bander la scène. Yeah. Tahia, tahia, bene. Tahia, tahia, jadei. Tahia, tahia, bene. Tahia, tahia, jadei. Tahia, tahia, bene. تحيا تحيا جزائر تحيا تحيا بينا تحيا تحيا جزائر
Parfait pour accompagner la lecture de votre roman Sabri Bata, votre dernier roman 404 aux éditions Flammarion, PNL. Tahia PNL, Tahia Jazair. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs les paroles de PNL? Moi, je dois vous avouer que je comprends rien. Il faut vraiment que j'ai les paroles sous les yeux, moi qui commençais ma carrière de journaliste dans le hip-hop. Là, je suis complètement dépassé.
Yankli, ça veut dire client.
Ouais.
Bikrav, ça veut dire. On va pas tous les faire, mais non, je comprends pas beaucoup plus que vous.
Non, mais quand il dit que la mif c'est tarteré, donc on comprend qu'ils sont des tarterés. C'est
compris.
Alger un peu trop corsé. Ça, c'est pour jouer avec leurs origines, puisqu'ils sont algéro-corse. Bon, tout ça pour dire qu'on a oublié quand même un personnage central de ce roman, c'est Dinar.
DJ Dinar,
ouais. Ouais.
Oui, j'ai imaginé un personnage de rappeur très très successful. Je pense que c'est
un meilleur de PNL.
Ouais, pour moi, franchement, en vrai, je sais pas si je devrais le dire, mais ce serait un peu plus Soul King, l'inspiration.
Ouais, d'accord.
Voilà, donc plus rail international, plus moins rap. Je sais pas, bon. Mais donc algérien, d'origine algérienne, c'est-à-dire né en Algérie, quoi. Pas comme nous, pas comme moi. Et qui arrive en France en épousant une vilaine pour les papiers. Enfin, c'est pas un gentil hein, comme personnage. Hein, c'est un rappeur, quoi. Mais qui a un succès phénoménal et qui va graviter dans tous les personnages qui vont se retrouver autour du projet 404.
404, parce qu'on va utiliser sa célébrité pour tester,
Lancer la plateforme,
Pour lancer cette plateforme. Alors, on rappelle que quand même, ce roman commence par par une drôle d'histoire politique. Hein. Je veux dire que la candidate de la présidentielle française, en faisant la tournée des capitales, comme le font tous les candidats qui peuvent accéder à la magistrature suprême, elle passe par Alger, évidemment, avec la communauté algérienne. Et ce qui se passe, c'est que elle va obtenir cette audience avec le président algérien. Cette audience n'est pas filmée, parce que voilà. Mais quand elle sort de cette audience, elle a une drôle de tête. Et puis, très vite après, en France, une vidéo circule sur le net où on voit le président algérien violenter et violer la candidate. Et donc, ça fait scandale, bien sûr.
Et ça fait surtout basculer l'élection en faveur de la candidate.
De la candidate. Sauf que cette vidéo est un mirage, une fausse vidéo.
Ouais, c'est un de ces deepfakes impossibles à repérer, impossibles à distinguer des vrais, c'est-à-dire qu'ils sont juste tout simplement beaucoup trop bien faits. Et comme il n'y a pas de... Alors, il y a d'autres vidéos concurrentes qui arrivent, mais au bout d'un moment, on ne sait plus quelle vidéo croire. Donc, c'est des vidéos de surveillance qui sont censées avoir été prises dans ce salon de réception du palais d'El Mouradia. Et ça va donner lieu à ce qu'on appelle le Mouradia Gate, parce que les deux, c'est ça qui est curieux dans cette affaire, c'est que les deux disent que le viol qu'on voit sur les vidéos n'a pas eu lieu. Mais d'un autre côté, on a l'impression que la candidate, elle pourrait avoir eu intérêt. Donc en gros, on ne sait plus, on n'arrive plus du tout à distinguer, on n'arrive plus du tout à savoir. Et c'est dans cet état de panique, c'est cet état de panique que j'ai voulu décrire. Parce que ce n'est pas les deepfakes qui posent problème, c'est jamais la technologie ou la technique qui pose problème, c'est notre panique humaine en réaction aux technologies. Parce qu'on pourrait très bien les utiliser à bon escient si jamais on était des communautés plus stables.
Et là, partant effectivement de quelques faits avérés déjà pendant l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire même quand on arrive à prouver que la vidéo est fausse, eh ben il reste toujours des gens qui pensent que fond il doit y avoir quelque chose de vrai dans cette mise en scène.
C'est la fameuse formule médisez, il en restera toujours quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionne la rumeur, c'est comme ça que fonctionne ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la technologie, c'est mon point d'entrée dans le roman, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle va rencontrer, en particulier des démons français, ce qu'elle va réveiller comme démons. C'est ça qui est intéressant, c'est le côté humain de la technologie, parce que sinon la technologie en tant que telle, c'est pas du tout un roman de science-fiction que j'ai écrit. Même prédire l'avenir m'intéresse pas, pour être franc. Je j'ai pas la prétention de le faire, et je crois que tous ceux qui l'ont fait ont échoué. Moi ce que j'ai voulu faire, c'est d'écrire une version particulière de l'avenir.
Voilà, et puis on revient donc effectivement au centre de la France, c'est-à-dire le lieu très symbolique où se déroule votre histoire, Sabri Loata de 404. Pourquoi l'Allier d'ailleurs ?
Parce que c'est pile au centre de la France que j'ai un peu quelques attaches familiales. Moi je viens de Saint-Étienne, donc c'est quand même pas non plus très très loin. Et puis l'Allier, c'est un département magnifique, c'est sur les contreforts du Massif central, c'est très vallonné, c'est très beaucoup de c'est le fameux bocage, donc c'est des prairies séparées par des haies vives. C'est un peu j'ai l'impression parfois que quand je pense à un paysage de français standard, d'ailleurs il y a la nationale 7 qui passe bordée de platanes, quand je pense à un paysage français standard, je pense que l'Allier devrait venir en tête naturellement. Il y a beaucoup de châteaux forts, c'est le Bourbonnais, comme on dit, c'est de là que viennent les ducs de Bourbon, donc toute une lignée de rois de France.
Alors, avec le recul que vous avez, vous décrivez quand même une France au bord de la partition. Hein.
Le roman vient vraiment d'un sentiment que j'ai eu un jour, de me dire, je suis pas chez moi dans mon propre pays. Bon, je suis pas le premier à l'avoir eu, je suis pas le seul, et je suis malheureusement pas le dernier. Et en romancier, j'ai voulu aller au bout de ce sentiment, j'ai voulu explorer la vérité de ce sentiment de pas être chez soi dans son pays, qui est curieux en fait. Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Enfin, pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de pays où ça peut se passer. Ça peut se passer que dans les pays qui n'ont pas d'homogénéité ethnique, comme c'est le cas de la France. Ou pour le dire autrement, ça peut se passer que dans les pays multiculturels, la France ou les États-Unis, par exemple, où on a des gens et qui, dans les failles du multiculturalisme, se retrouvent un petit peu exotiques à leurs propres yeux. Et moi, je sens souvent ça, un écartèlement, l'impression de pas être qui je suis, de pas m'insérer naturellement, de pas avoir ma place dans ce décor. Or, moi, ma conviction, c'est qu'on ça devrait pas. C'est ce que je découvre en explorant la vérité de ce sentiment, c'est que c'est un scénario extrêmement violent. Mais je pense que ce que ça dit, c'est que en vérité, l'expérience des Algériens de France, comme moi, ou de la diaspora algérienne de France, ou des franco-algériens comme vous voulez, donc en gros, presque des Algériens qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'Algérie, si c'est le nom, c'est que en fait, on a notre place dans la mosaïque française d'une façon ou d'une autre. Moi, j'essaie juste de polir le carreau particulier Algérie de cette mosaïque.
Mais vous dites que ça s'aggrave, c'est-à-dire qu'on va pas vers l'apaisement.
Non, je le dis pas. C'est plutôt ce que je vois.
C'est ce que je
ressens. Ouais, mais il y a une différence entre le... Si jamais j'avais voulu le dire, j'aurais écrit un pamphlet, vous voyez, j'aurais écrit un, ou alors un, une tribune. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Une tribune, c'est efficace. Moi, j'ai voulu l'incarner dans des personnages contradictoires qui se battent d'ailleurs pour que l'issue tragique n'arrive pas. Mais on la sent tous, cette issue tragique. On sent tous, il y a un truc avec les Arabes en France. Il y a, je sais pas comment le dire, il y a des, probablement des mots polis pour le dire, mais alors on parle de désintégration, tout ça. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. C'est, il y a eu un crime colonial qui a duré 130 ans, que la France a, que les fauteurs de ce crime ont tout fait pour l'effacer. Et il y a une forme de trauma colonial qui perdure. Parce que toute l'Algérie, c'est pas une question, ça concerne pas que les Algériens, ça concerne tous les Français. Tous les Français ont un rapport avec l'Algérie. Tous les Français, l'Algérie est dans toutes les familles, l'Algérie est. Et j'ai l'impression souvent que c'est un tabou qui empoisonne. Parce qu'on, et c'est pas qu'on en parle pas, hein. on en parle, mais pour ne pas en parler. Et typiquement, on parle tout le temps. De... Ouais. Là, on parle de la guerre d'Algérie tout le temps. Et la guerre d'Algérie, évidemment, qu'on va trouver des salauds des deux côtés. Donc on finit par avoir un truc d'équilibre. Sans... Si vous, vous reconnaissez vos saloperies du FLN, nous, on reconnaîtra nos méchants de l'OAS. Et en gros, on arrive à un truc comme ça. Mais c'est pas. Il y a eu. Pourquoi est-ce qu'il y a une question musulmane en France aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a eu à un moment le dé d'Alger a donné. Il y a eu la fameuse gifle du dé d'Alger, l'avexation française, hein, le coup d'éventail. Et ensuite, il y a eu une colonisation de peuplement. Ce qui consiste une colonisation de peuplement, c'est quand même énorme dans l'histoire. Je comprends pas pourquoi on n'a pas dans le roman national, on n'a pas fait cet aggiornamento des représentations qui nous permettrait de le regarder en face un peu comme les Américains le font. Je dis pas que ça va mieux là-bas, hein, mais au moins, on se fait pas croire que l'esclavagisme, il y a eu du bon dans l'esclavagisme, vous voyez.
Est-ce que vous pensez que, comme Les Sauvages, 404, votre dernier roman, Sabri Loata, pourrait être adapté tout de suite en série télé ou en film?
Non, je crois que c'est beaucoup trop tôt de... Et puis c'est un roman très littéraire, je crois, qui existe vraiment aussi dans le jeu.
C'est dans la langue, c'est vrai, c'est très bien écrit.
C'est gentil. Et puis j'essaie vraiment surtout essayer de trouver une langue qui soit... Ouais, c'est toujours mon problème, c'est j'ai été éduqué un peu comme Ali et en prépa, en fait on apprend à parler bourgeois en vérité, vous voyez. Et comment faire en sorte de faire exister d'autres personnages avec cette langue qui les fait parler. Donc c'est des problèmes que j'ai eu et je crois avoir trouvé une solution.
C'est la dernière question que je voulais poser, Sabri Loata. C'est vrai que vous mettez les Arabes que vous mettez en scène dans vos livres, ce sont des Arabes qui ont fait des études et c'est vrai que ils ont pas beaucoup de place dans le champ artistique. Ils vous ressemblent, ils ont fait des hautes études, et on a l'impression que ceux qui ont fait des grandes études, qui ont réussi dans leur vie, ils ressentent plus violemment le malaise d'être arabe en France.
C'est intéressant, ça. Après, moi, je suis un cas particulier, j'habite aux États-Unis maintenant, donc...
Depuis peu, quand même.
Ouais, depuis 5 ans, quand même, ça fait... Mais c'est vrai qu'au bout d'un... Parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, par exemple, avec les Gilets jaunes à un moment, c'est, on le disait, ils sont racistes, antisémites. Et Florence Aubenas, elle a dit, moi, j'ai pas entendu plus de racisme ou d'antisémitisme que dans des salles de rédaction. Donc, l'antisémitisme et le racisme existent partout dans la société. Et vouloir les réduire au milieu pauvre ou ainsi de suite. Et je pense que plus on monte dans la société, plus on rencontre un racisme qui a une particularité, c'est qu'il est beaucoup plus organisé et inattaquable.
Vous rendez d'ailleurs hommage à Florence Aubenas dans 404, Sabri Loata. Vous êtes vous-même impliqué dans l'adaptation à la télévision des Sauvages.
Comme la saison 1 a eu beaucoup de succès, on réfléchit à en faire une saison 2, mais on n'est pas du tout... Je peux pas dire...
Vous êtes content de l'adaptation
Mais je l'ai écrite, donc oui. Alors,
Virginie Despentes, par exemple, elle trouve que l'adaptation de Vernon Subutex est nulle. Et vous?
Non, mais ça n'a rien à voir. Elle a pas travaillé dessus. Ouais. Donc, moi, j'ai travaillé dessus avec Rebecca Zlotowski. On a travaillé main dans la main. Et donc, c'est autre chose. J'ai été présent à toutes les étapes.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Le dernier roman de Sabri Loata est édité par Flammarion. Merci beaucoup Sabri Loata d'être passé ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Le Réveil culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard. Ce matin, à la prise de son, Alain Joubert. Bonne journée, on se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Sur France Culture, le monde sous toutes ses facettes, Florian Delorme.
Il y a tout juste un an, un immense mouvement populaire s'emparait de l'Algérie, que l'on disait pourtant totalement endormie, le Irak. Chaque vendredi, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer pacifiquement l'incurie de leurs responsables et demander la fin du régime. Depuis, l'indéboulonnable Bouteflika a démissionné, son chef d'état-major qui incarnait la continuité est mort et un nouveau chef d'état a été élu. Mais pour autant, l'Algérie a-t-elle vraiment changé ?
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Vendredi 6 mars à 20h, à l'Auditorium de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par le jeune prodige Klaus Makela, nous entraînera vers le Grand Nord, avec le concerto pour violoncelle de Salonen, interprété par Truls Mörck, et la première symphonie de Sibelius, merveille d'éloquence et de lyrisme. Avec une pointe d'esprit français, avec gigue et ronde de printemps de Debussy. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Agnès Buzyn quitte le gouvernement pour succéder à Benjamin Griveaux comme candidate à la mairie de Paris. Une annonce faite alors qu'arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale la réforme des retraites. Pour le moment, 2 semaines de débats sont prévues, mais 41 000 amendements ont été déposés. Il réclame des augmentations de salaire et l'arrêt de l'importation du charbon de l'étranger. Les mineurs polonais font grève aujourd'hui, explication de notre correspondant. L'Albanie espère 1 milliard d'euros pour reconstruire ces villes touchées en novembre dernier par un séisme. Reportage. Un jeu de chaises musicales s'est produit. Hier soir, Agnès Buzyn a annoncé qu'elle quittait son poste de ministre de la Santé pour prendre la relève de Benjamin Griveaux. Le candidat malheureux de La République En Marche a annoncé le retrait de sa candidature à la mairie de Paris vendredi après la divulgation de vidéos à caractère sexuel. Un bouleversement politique à un mois des élections municipales. C'est donc le député de l'Isère et neurologue Olivier Véran qui devient ministre de la Santé à son tour. Une situation incompréhensible en pleine épidémie de coronavirus pour Patrick Peloux, président de l'Association des médecins urgentistes.
Ça déstabilise le système de santé. Elle est pas rien. Elle n'est pas d'ailleurs que ministre de la Santé, elle est ministre des Solidarités. Donc ça veut dire que même le chantier, le débat sur les retraites, il va falloir qu'un nouveau ministre s'y intéresse et le reprenne. Donc c'est assez déstabilisant pour nous. La problématique qu'on a à l'heure actuelle, ce qu'on a exprimé encore dans la rue vendredi, elle a ce dossier sur la table qui concerne l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour avoir vraiment les moyens à donner aux hôpitaux. On va repartir à zéro avec un nouveau ministre. J'ai l'impression que ce que voulait faire l'autre gigoto, là, qui a déstabilisé le candidat Griveaux, il a réussi, quoi. Il déstabilise la politique en France. C'est insensé, quoi, ce qui nous arrive. Là. C'est fou parce que là, vous déstabilisez le système de santé.
Patrick Peloux, propos recueillis par Marc Potvin. La passation entre Agnès Buzyn et Olivier Véran aura lieu dans la matinée. L'artiste russe Piotr Pavlensky et sa compagne sont toujours en garde à vue pour des soupçons d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Ils auraient diffusé les vidéos sexuelles concernant Benjamin Griveaux. Le gouvernement se serait bien passé de cette affaire. Il est déjà mobilisé sur la réforme des retraites. C'est aujourd'hui qu'arrive le texte dans l'hémicycle. Face à la vague de plus de 22 000 amendements examiné, impossible de finir le travail en commission, mais chacun a pu roder ses arguments. Et ce sera encore plus en séance, plus de 41 000 amendements déposés. La France insoumise veut retarder au maximum les débats. La majorité promet, elle, qu'elle laissera le temps à la discussion. Les concertations de ces derniers jours, pénibilité, emploi des seniors, droits familiaux, auront aussi permis de faire bouger le texte, Hélène Philly.
Il va falloir monter sur le ring bien armé. L'opposition attend le gouvernement sur le calcul du point, indexé non plus exactement sur les salaires, mais un indice, le revenu moyen d'activité par tête, qui n'existe pas encore. La droite prône un report de l'âge légal à 64 ans en 2028, la seule, dit-elle, à assumer la vérité, alors que la gauche fourbit ses armes sur l'espérance de vie et sur les droits familiaux. Sur ce point, le gouvernement a d'ailleurs corrigé sa copie. Dans le texte initial, la majoration de 5% par enfant pouvait être attribuée à l'un ou à l'autre des parents, au risque que tout aille à celui qui a le plus gros salaire, l'homme le plus souvent. La nouveauté, c'est donc que 2,5%, la moitié, ira d'office à la mère. L'éventuel partage se fera sur la moitié restante. Les rapporteurs mettront enfin leur grain de sel sur la pénibilité, appelant les partenaires sociaux à se mettre d'accord dans les branches, faute de quoi un dispositif par défaut leur serait imposé.
Et contre la réforme des retraites, un lundi noir était annoncé aujourd'hui à l'appel notamment de 4 syndicats de la RATP. Mais le mouvement devrait être assez peu suivi, avec un trafic normal à la SNCF et quasi normal dans les transports franciliens, d'après le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari. Pékin déplore un lourd bilan en pleine crise de coronavirus ou Covid-19 avec désormais plus de 1700 morts. Une situation très difficile aussi au Japon où les Américains ont commencé à évacuer cette nuit leurs ressortissants en quarantaine sur le bateau de croisière le Diamond Princess. Sur le paquebot, 355 cas de contamination ont été confirmés. 22 civils ont été tués vendredi dernier au Cameroun, une majorité d'enfants et plusieurs femmes. L'ONU l'a annoncé hier. L'attaque s'est produite dans le nord-ouest du pays. Des hommes armés ont fait irruption dans le village d'une province peuplée par la minorité anglophone. Des milliers de mineurs polonais devraient faire grève aujourd'hui. Les gueules noires de l'entreprise publique PGG réclament des hausses de salaire de 12% pour s'aligner sur les rémunérations des autres acteurs du secteur minier. Ils demandent aussi d'arrêter d'importer du charbon pour soutenir l'extraction locale. Les mines du principal acteur du secteur seront à l'arrêt pendant 2 heures ce matin. Le secteur est en grande difficulté, Thomas Giraudeau.
Le groupe PGG, géant public des mines, ne peut pas augmenter les salaires, il est en grande difficulté, le prix de vente de la houille est en baisse et les familles polonaises qui se chauffent encore au charbon préfèrent le minerai russe, beaucoup moins cher et de meilleure qualité. Bartłomiej Majderski est journaliste spécialiste de l'énergie.
La quantité de charbon extraite en Pologne est en constante baisse depuis 40 ans à cause de son coût. Nous extrayons de la houille depuis plus de 100 ans, donc il n'y a plus de charbon proche de la surface. Il faut creuser de plus en plus profondément pour le trouver, et cela coûte plus cher.
Le président Andrzej Duda dit pourtant que son pays peut encore exploiter le charbon pendant 200 ans, une annonce pour séduire les 80 000 mineurs du pays. Mais en Silésie, au cœur du bassin minier polonais, le maire de la ville d'Imielin, ancien mineur, Jan Fiedacz, est plus réaliste.
Ce n'est plus l'âge d'or des mines. Il y a 30 ou 40 ans, un millier de mineurs habitaient Imielin. Aujourd'hui, ils sont 5 fois moins nombreux. Il faut passer à des sources d'énergie renouvelables. Surtout que l'Union européenne dit non au charbon.
Le gouvernement vient d'annoncer que les centrales électriques vont arrêter d'acheter du charbon venu de l'étranger. Mais le minerai polonais étant plus cher, les factures énergétiques des habitants vont mécaniquement augmenter.
Thomas Giraudeau. Les dirigeants des pays des Balkans étaient hier soir réunis à Bruxelles. Ils ont rencontré le président du Conseil européen, Charles Michel, en vue d'une adhésion à l'Union européenne. Et alors que doit se tenir au mois de mai prochain le sommet de Zagreb, la France réclame une nouvelle procédure d'adhésion plus stricte. Parmi ces 6 pays figure l'Albanie. Le pays a besoin d'aide pour se reconstruire après un violent séisme fin novembre. Une conférence Ensemble pour l'Albanie est prévue cet après-midi à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va appeler les donateurs potentiels à se montrer généreux, à offrir plus d'1 milliard d'euros. À Dourès, deuxième ville du pays particulièrement touchée, les habitants aimeraient tourner la page, Louis Seyé.
La cinquantaine, Astrid prend des sacs de courses dans sa voiture et monte dans son ancien appartement. Voilà 2 mois et demi que cet électricien n'habite plus dans cet immeuble, jugé dangereux par les experts.
On nous a donné une aide au logement et avec cette aide, on est parti vivre autre part. Mais on doit venir ici, aider mon vieux père, 90 ans, qui ne veut pas partir.
Un peu partout dans Dourès, des immeubles sont fissurés, des murs effondrés. Dans la deuxième ville d'Albanie, plus de 37 000 bâtiments ont été endommagés par le séisme. Au pied de son ancienne résidence, Lule Muka regarde son fils monter des escaliers en ruine.
Ils nous ont dit qu'on allait recevoir une aide au logement. On n'a toujours pas touché cette aide, mais on nous a relogés dans un appartement vide. Donc on vient ici récupérer des vêtements pour vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas d'argent pour en acheter d'autres.
Sur les 17 000 personnes laissées sans abri par la catastrophe, 10 000 dorment toujours dans des tentes. Si Lule et sa famille ont obtenu un logement, aucune décision n'a encore été prise pour leur ancien immeuble.
Ils n'ont rien fait, ils ne nous ont rien dit, on ne sait rien. Qu'est-ce qu'ils ont décidé pour notre immeuble, on ne sait pas.
Le long du front de mer, les hôtels sont à pied d'œuvre pour effacer les traces de la catastrophe. Même si l'immeuble où elle travaille n'a toujours pas été réparé, Ardita a rouvert son épicerie.
Qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on devrait aller? Et où est-ce qu'on va travailler? Oui, c'est dangereux d'être ici, mais nos enfants, il faut bien leur donner à manger et à boire.
Selon les autorités albanaises, la reconstruction devrait démarrer dans les prochaines semaines. 18 zones ont été retenues pour la construction de nouveaux quartiers résidentiels afin de loger les sans-abri.
Il n'y a jamais eu autant d'alertes inondations en Angleterre, près de 600 à cause de la tempête Dennis qui a balayé hier le Royaume-Uni. Un homme est mort, des centaines d'avions au départ comme à l'arrivée n'ont pas pu décoller. Le vent a soufflé très fort en France également, près de 45 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier dans le nord-ouest du pays. Quelques dégâts aussi sur les voies, un arbre tombé sur les rails a perturbé le trajet d'un TGV Nantes-Paris avec 750 personnes à bord. Le train a mis 15 heures à arriver en gare Montparnasse cette nuit. Le temps sera pluvieux aujourd'hui du nord de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. Ce sera sec dans le nord-ouest. Attention au vent encore soutenu avec des rafales proches de 80 km/h près de la Manche, parfois accompagnées de giboulées. Comptez ce matin 8 degrés à Lille, 10 à Paris et Bordeaux, 11 à Strasbourg, 12 à Lyon et 14 degrés à Marseille. Tout de suite, le journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Margot Delpierre.
Ce matin, l'affaire Griveaux, elle suscite de nombreux commentaires sur la menace que font peser les réseaux sociaux sur la démocratie.
Et oui, comme le souligne Bernard Gors sur le site du journal La Croix, de nombreux éléments restent à préciser sur la nature de la relation qu'aurait pu avoir le candidat avec la destinataire de la vidéo, sur des soupçons de harcèlement. Comment ce message privé, demande-t-il, s'est-il retrouvé sur Internet? Le droit pénal sanctionne le détournement de correspondance ou encore l'intrusion dans un système informatique. Mais Benjamin Griveaux s'est-il lui-même mis en danger en communiquant sur un réseau social? Sinon, comme le rappelle Frédéric Beaulieu, avocate en 2015 de Dominique Strauss-Kahn, poursuivi pour proxénétisme et finalement relaxé, en droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis. On peut réprouver moralement un comportement sexuel, mais s'il n'y a pas d'infraction, cela relève strictement de la liberté individuelle. Concernant la diffusion de la vidéo, l'avocate explique que selon la jurisprudence européenne, seule l'existence d'un intérêt général peut justifier la divulgation d'informations privées, par exemple, si un élément de la vie du candidat peut apporter un éclairage sur sa capacité à exercer ses fonctions, ce qui ne semble pas être le cas en l'occurrence, selon elle. La philosophe Fabienne Brugère pointe un autre aspect de l'affaire, celui de la nature de la vérité dans des sociétés dominées par ce qu'elle appelle des dispositifs ayant la capacité de disséminer à l'infini des contenus qui échappent totalement à l'individu, je cite, peu importe ce qui est vrai ou faux, c'est le dispositif technique qui crée une nouvelle situation ou une nouvelle vision du sujet. Celle-ci prolifère et s'impose comme vérité. Jérôme Lèbre, auteur de « Scandale et démocratie », rappelle l'origine biblique du mot « scandale », une expression en hébreu signifiant « l'occasion de tomber dans l'erreur ». La notion de scandale désigne donc une disposition intérieure qu'un élément extérieur rend manifeste. À l'époque des réseaux sociaux, la collusion entre vie publique et vie privée, qui fait toujours débat, trouve un écho exponentiel. Dès lors qu'un élément de la vie privée est rendu public, son importance est largement et rapidement amplifiée par le nombre et la nature des réactions sur ces réseaux sociaux. C'est ce qui, habituellement, transforme une donnée privée en un scandale. Dans cette affaire, le philosophe estime cependant avoir été agréablement surpris par une partie des réactions sur Twitter, qui relevait moins de la condamnation que d'un métadiscours sur le principe des réseaux sociaux. De nombreux internautes n'ont pas mordu à l'hameçon et se sont plutôt interrogés, dit-il, sur la nécessité de débattre autour de contenus aussi privés dans un espace public. Car selon lui, le réseau social est un miroir des failles de la société, pas leur cause, et le scandale serait plutôt l'occasion de se concentrer en amont de leur utilisation sur les fondamentaux de la démocratie, comme l'éducation à la citoyenneté, le le dialogue et le respect. Dans sa chronique de l'hebdomadaire Le Point, Kamel Daoud n'est pas aussi conciliant. Même s'il faut se garder des censeurs et aussi protéger cette nouvelle liberté d'expression contre le risque d'addiction, de désincarnation du sujet, on ne doit pas se mentir. Internet a altéré notre réel, il le parasite, il le double jusqu'à l'occulter. L'écrivain confie sa troublante intuition que, plus que les médias classiques, c'est toute la démocratie qui va pâtir des réseaux sociaux jusqu'à s'effondrer un jour sous les ricanements des nouveaux leaders populistes. Et il dénonce la consanguinité entre les mouvements de foule et les viralités numériques ces dernières années, ou encore l'impact de la récolte des cookies sur la manipulation des âmes et des électeurs. Et alors que les démocraties en crise cherchent des visage, l'anarchisme numérique montre chaque jour les siens qui décident déjà du buzz de demain. Reste que, comme le montre Samuel Hayat dans un petit livre indispensable sur la démocratie, publié chez Anna Moza, la démocratie représente aussi le pouvoir de refuser collectivement des relations de pouvoir et de domination. La démocratie, écrit-il, c'est refuser d'être gouverné, mais à plusieurs, et de citer le retrait des plébéiens sur l'Aventin dans la République romaine, l'événement inaugural de la politique pour Jacques Rancière. Les patriciens, leur refusant d'avoir part à la discussion politique, les plébéiens s'en séparent pour constituer leur propre espace de parole, montrant par là leur capacité à délibérer, à égalité avec les patriciens. L'histoire des luttes est pleine d'exemples de ces moments où les dominés reconstituent des espaces de parole à l'écart des circuits balisés de la délibération. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent aussi ce rôle. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, la conférence de Munich qui vient de se tenir ce week-end et les divergences qui se creusent entre les États-Unis et l'Europe.
Oui, c'est parmi ce qu'il y a eu de plus spectaculaire à observer entre vendredi et hier, la dégradation transatlantique mise en mots, que ce soit dans le discours du président allemand accusant les États-Unis de tourner le dos à la communauté internationale et de mettre leur intérêt propre au-dessus des autres, que ce soit la réponse quelque peu ironique de Mike Pompeo un peu plus tard. J'ai le plaisir de vous annoncer, a lancé le secrétaire d'État américain à son auditoire, que l'idée selon laquelle l'alliance transatlantique serait morte est grandement exagérée. Mike Pompeo a peut-être l'art de la litote. Bonjour Philippe Lémarie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des questions de défense au monde diplomatique. Dans ce qui a été dit par les uns et par les autres ce week-end à Munich, qu'est-ce qui relève déjà d'une différence de constat, de conception du monde entre les États-Unis et l'Europe?
En tout cas, la phrase de Mike Pompeo, c'est un peu une réponse à celle du président français Emmanuel Macron il y a quelques semaines, quand il a affirmé que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Les différences, les divergences, elles sont profondes et je crois qu'elles sont bien apparues au cours de ce forum traditionnel annuel de Munich. Côté européen, c'est en gros l'ami américain qui n'est plus vraiment un ami, ou pas un ami suffisant en tout cas, et qui n'est plus le parrain qu'il a été longtemps. Les Allemands notamment sont orphelins de cette espèce de protection américaine à un moment où les alliés eux-mêmes subissent des sanctions, des menaces de taxes, des mises en cause de leur participation à l'OTAN, des mises en cause de leur budget militaire. Donc il y a un climat qui s'est instauré de défiance transatlantique au lieu de la solidarité, disons, habituelle, classique, et même une espèce d'hostilité idéologique que ressentent certains Européens, et notamment les Français, et notamment M. Macron par exemple, hostilité idéologique au concept même de l'Union européenne, puisque finalement les Américains actuels, ceux de Donald Trump, considèrent que l'Union européenne elle-même est une machine invraisemblable et une machine trop concurrentielle par rapport d'ailleurs à ses partenaires, et notamment par rapport aux États-Unis. Ils voudraient bien que l'Union européenne n'existe pas. Ils ont réussi d'ailleurs à accélérer le Brexit.
La fracture était déjà bien entamée entre Union européenne et États-Unis l'année dernière lors de la conférence de Munich 2. de l'année dernière, c'était quelques mois après le retrait de Washington de l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien et depuis des retraits tous azimuts de la part des États-Unis.
Oui, il y a eu, outre cette histoire iranienne qui est quand même énorme, hein, parce que c'est un accord qui avait été extrêmement difficile à mettre au point, qui a stabilisé quand même régionalement les conflits pendant tout un temps, qui était l'espoir aussi que l'Iran évolue d'une manière plus démocratique, etc. Donc on a cassé ça, mais on a cassé aussi le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, à portée intermédiaire. On est sorti du, enfin je parle des Américains, ils sont sortis du traité sur le commerce des armes, ils sont sortis dans un autre domaine de l'UNESCO. Enfin, il y a une espèce de casse de toute l'architecture multinationale mondiale qui s'était mise en œuvre depuis déjà des décennies, et c'est toute cette chose-là qui est regrettée par les Européens.
Et vous disiez tout à l'heure l'Allemagne qui a eu longtemps pour parrain les États-Unis. Que dit la véhémence des propos du président allemand de l'évolution des relations entre l'Allemagne et les États-Unis ?
Ah ben là, les Allemands, il y a vraiment une déception énorme, parce que les États-Unis sont à l'origine, sont le soubassement de l'Allemagne d'aujourd'hui. Ce sont les États-Unis qui ont aidé, par exemple, à reconstituer l'armée allemande actuelle, la Bundeswehr, sur les ruines de la Wehrmacht, de l'ancienne Wehrmacht. Ce sont les États-Unis qui sont le protecteur attitré de ce pays, qui est quand même le grand pays à l'échelle européenne au point de vue économique. Ils ont l'impression d'être laissés pour compte un petit peu les Allemands, de ne plus être considérés par leur ancien parrain de la bonne manière.
Ancien parrain qui est aujourd'hui une obsession, et les États-Unis ne sont pas cachés de cette obsession, notamment hier, ce week-end à Munich, avec l'intervention du secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, presque exclusivement consacré à la Chine. Là voilà cette obsession, et c'est ni lié au coronavirus, mais c'est pas non plus lié exclusivement à Huawei.
Non, la Chine, alors c'était étonnant, pendant que les Américains tiennent ce discours assez unilatéral maintenant, les Chinois, au contraire, se posent en champion du multilatéralisme. Ils estiment qu'il n'y a pas de raison. D'ailleurs, leur ministre des Affaires étrangères l'a exprimé ces jours-ci, à Berlin et à Munich. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une suprématie d'une seule nation sur le reste du monde, disent-ils, eux les Chinois. Eux qui sont l'usine du monde, justement, mais ils pensent, ils affirment qu'eux n'ont pas de visée ou d'arrière-pensée de domination, et ils considèrent qu'il n'y a pas une culture qui doit déterminer toutes les autres. Ils reprochent en fait aux Américains d'avoir toujours cette image de domination mondiale. Voilà.
Les Chinois qui ont présenté, c'était l'année dernière, lors de l'anniversaire de la République populaire de Chine, c'était en octobre, qui a présenté ses missiles balistiques intercontinentaux qui permettraient d'atteindre l'ensemble du territoire américain en 30 minutes. Ils disent toujours que c'est la théorie du second strike, et ils ne frappent jamais en premier. Oui. Et les États-Unis se sentent menacés, que ce soit directement par la Chine, mais aussi en Europe, leur bouclier antimissile américain va devenir vite obsolète avec les missiles russes et même iraniens.
Il y a tout ça avec toutes ces nouvelles armes et toute cette course aux armements qui a redémarré ces dernières années, effectivement. Avec sur une année une augmentation de 4 à 5% déjà des dépenses militaires mondiales à toute l'échelle mondiale.
C'est un rapport qui a paru quelques heures avant l'ouverture de la conférence de Munich, et qui a permis au président allemand, à l'ouverture, M. Steinmeier, à l'ouverture de cette conférence, de dire c'est plus possible, cette course à l'armement n'a aucun sens.
Voilà, ça n'a aucun sens, et d'autant moins pour un pays comme l'Allemagne, on y revient un instant, qui est un pays pacifiste en fait, de formation, de culture. Aujourd'hui, une armée allemande d'ailleurs qui n'est pas efficiente comme armée en Afghanistan par exemple.
On va dire dans les dernières décennies, pas au-delà.
Non, les Allemands avaient participé aux opérations militaires en Afghanistan, ils avaient envoyé des avions, mais leurs avions étaient seulement des avions d'observation, ils n'ont jamais tiré sur quoi que ce soit. D'ailleurs, pour chaque action militaire, militaire, le Parlement allemand doit intervenir, donner son feu vert, etc. Alors qu'en France, par exemple, un président fait à peu près ce qu'il veut dans le domaine militaire.
Philippe Lémarie, les États-Unis reprochent aussi à l'Union européenne de fermer leurs portes à l'industrie américaine, l'industrie de la défense. Est-ce qu'il parle de quelque chose en particulier ?
Oui, il y a peut-être la fin d'une certaine naïveté européenne qui est en train de se faire jour dans le domaine de l'industrie de l'armement. Des fonds importants, entre 6 et une dizaine de milliards d'euros, sont en train d'être réservés, c'est encore en discussion, c'est pour ça que la fourchette est si large, entre 6 et 12, sont en train d'être réservés à des programmes de recherche et développement dans le domaine militaire, pour qu'enfin les Européens puissent mettre au point un certain nombre de matériel, d'armement, hein, qui soit fait en Europe. Donc il y a une espèce de préférence européenne qui est en train de se monter, de se construire, et du coup on songe à fermer à Bruxelles, hein, on songe à fermer la porte aux sociétés américaines, sociétés britanniques, puisque les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, elles n'auront pas le droit a priori de participer, d'utiliser ces fonds, de même Israël ou d'autres pays qui serviraient un petit peu de cheval de Troie et qui reprendraient ces crédits.
Il y a quand même la Pologne qui vient d'acheter 32 chasseurs F-35, c'est aussi le cas des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Italie. Ouais. Mais globalement, dites-vous, Philippe Lémarie, un retrait progressif des Européens qui tournent le dos à l'industrie américaine. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'annonce faite hier par Washington qu'à partir du 18 mars, les surtaxes douanières imposées par les États-Unis à Airbus passeront de 10 à 15% à Airbus? Est-ce que c'est une mesure de rétorsion d'après vous?
Oui, c'est possible. Il y a tout un climat de menaces de taxes qui sont vraiment édictées, qui sont retirées ensuite. Là, c'est un peu un climat un petit peu infernal qu'essaie d'organiser le président Trump qui
en l'occurrence encadré par l'OMC pour ce qui concerne Airbus.
Voilà. Oui, parce que Airbus espère bien que plus tard, les Boeing et les Américains auront aussi leurs amendes et leurs taxes à leur encontre. Hein. Mais donc, il y a un climat qu'instaure le président Trump, de ça, il fait cette espèce de diplomatie business avec des hauts et des bas voilà.
Et l'OMC, elle a aussi autorisé l'Union européenne à surtaxer bientôt les exportations de Boeing parce que les crédits d'impôts accordés par l'administration américaine et qui se chiffrent en milliards de dollars ressemblent à s'y méprendre aussi à des subventions. Pour conclure, Philippe Lémarie, est-ce que l'heure n'est pas pour les Européens de redéfinir leur alliance avec les États-Unis s'ils ne partagent peut-être plus les mêmes objectifs et les mêmes priorités?
C'est un peu ce qui se passe. C'est le sens des propositions, en tout cas, que fait le président Macron depuis déjà un certain temps. Il voudrait qu'au moins, à l'échelle européenne, il y ait la création d'un pilier européen de l'OTAN, sans refuser l'OTAN en elle-même, sans refuser cette alliance, mais en faisant en sorte qu'il y ait une industrie de l'armement européenne, qu'il y ait des moyens capacitaires militaires européens conséquents aussi, et qui fassent que d'ailleurs les Européens aient un peu plus de crédibilité, ne serait-ce que pour les États-Unis, hein, qu'ils soient un partenaire un peu plus costaud.
Merci beaucoup Camille Magnard, il reviendra tout à l'heure dans sa revue de presse internationale. Je vous remercie Philippe Lémarie, spécialiste des questions de défense au Monde diplomatique, d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
En 2019, 124 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Des hommes violents, une série exceptionnelle en podcast original sur franceculture.fr. Immersion au sein d'un groupe de parole constitué de 12 hommes violents condamnés par la justice à y participer.
C'est la femme des fois qui cherche, hein. Faut pas croire.
Déni, récits, témoignages, tous viennent d'univers différents. Qui sont-ils ? Des hommes violents, un podcast original Pieds sur Terre en 6 épisodes, disponible dès aujourd'hui sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Sur France Culture, prenons la vie avec philosophie, Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ?
Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson !
Non, je suis bien là.
West Side Story, Chantons sous la pluie, Mary Poppins, Peau d'âne, la comédie musicale nous permet-elle de retrouver la joie de vivre ? Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Hervé Gardette.
Bonjour Julie Gacon.
Eh ben, plaisir de vous voir et de vous entendre. C'est vous qui êtes aux manettes des matins de France Culture pendant quelques jours. Et ce matin, pour votre humeur du jour, Hervé, comment gagner une élection?
Surtout, ne plus rien faire, mieux, ne plus rien dire. Voilà le conseil que je donnerais à Anne Hidalgo si je dirigeais sa campagne. Silence absolu, vos adversaires travaillent pour vous, les municipales à Paris. Un boulevard. La violence du débat politique et l'hypermnésie des réseaux sociaux concourent à ce que la meilleure des stratégies pour conquérir le pouvoir ou pour le garder soit celle de l'assaise. Les politiques, comme les chanteurs, hashtag Jean-Jacques Goldman, ne sont jamais aussi populaires que lorsqu'ils se taisent et lorsqu'ils attendent. Ainsi va la vie politique désormais, qui consiste à faire davantage confiance en ses adversaires qu'en ses propres troupes, pour mettre tout le monde d'accord sur la ligne d'arrivée. Souvenons-nous de quelques anciens scrutins. François Hollande serait-il devenu le président si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas fait le séjour de trop au Sofitel? Emmanuel Macron lui aurait-il succédé si François Fillon n'avait pas eu le souci de rester élégant en toutes circonstances et à moindre frais? La péripétie de campagne, pour ignoble qu'elle soit, comme vient de la vivre Benjamin Griveaux, est une variable qui ne doit plus être négligée, quand bien même aucun algorithme ne peut la prévoir. Dans Les Tuches 3, ce grand film politique considéré à tort comme une simple pochade, Jeff Tuche, le chef de famille, incarné par Jean-Paul Rouve, se désole que le TGV qui passe par son village ne s'y arrête pas. Pour obtenir gain de cause, il se présente à la présidentielle, c'est un clou qu'il n'a aucune chance. Il va néanmoins remporter un concours, le concours de circonstances. Les autres candidats ont trempé dans des affaires, faute de combattants. Le voilà à l'Élysée. Alors je vois bien qu'il y a un biais dans mon raisonnement. La maire de Paris n'est pas en position de challenger, mais de favorite. La logique voudrait donc qu'on aille chercher son successeur non pas en haut des sondages, mais tout en bas. Et tout en bas, au ras des pâquerettes, il y a Marcel Campion. Alors Marcel Campion, maire de Paris. Là, vous savez quoi? Le pire dans cette histoire, Julie, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut même plus écarter une telle hypothèse.